4000 ans d'histoire. Une chronique historique tous les lundis à 16h30 et 19h30. Aujourd'hui, nous évoquons l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'URSS par l'Allemagne, avec Jean Lopez. Alors, Monsieur Lopez, bonjour.
Bonjour.
Voilà, je vous reçois aujourd'hui pour évoquer l'opération Barbarossa. Vous êtes un historien spécialisé dans l'histoire militaire. Vous animez notamment, vous dirigez plutôt la revue Guerre et Histoire. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, les mythes de la Seconde Guerre mondiale, les grandes erreurs dans la Seconde Guerre mondiale, Kharkov 1942. Il en est question, de Kharkov, beaucoup dans l'actualité en ce moment. Et surtout ce très bel ouvrage avec l'achat Otka-Mezzouri, Barbarossa 1941, la guerre absolue aux éditions Perrin. Alors c'est un bel ouvrage, 1700 pages, mais qui se lit comme un roman. Et c'est, à mon sens, l'ouvrage le plus complet et le plus facile à lire sur le sujet. On peut prendre un chapitre et ne lire qu'un chapitre. Il est découpé de façon à ce qu'on puisse le lire par partie. Et c'est vraiment extrêmement bien écrit.
Je vous remercie.
Je vous en prie. Alors, au début de cet ouvrage, vous faites remonter en fait cette opération Barbarossa, c'est-à-dire la décision que prend Adolf Hitler d'envahir l'URSS à partir du mois de juin 1941. Vous la faites remonter, en fait, bien plus tôt. Vous remontez aux années 20, avant même la prise de pouvoir des nazis en Allemagne, pour montrer comment Hitler impose l'idée d'une extension vers l'Est qui n'est en fait pas si évidente que cela pour les Allemands et pour les nazis en particulier.
C'est vrai qu'il lui a fallu, pour imposer cette urgence à détruire l'État judéo-bolchevique, comme il appelle l'URSS, il n'emploie jamais le terme d'URSS. Parfois, il parle de Russie soviétique, mais jamais son nom officiel. Il lui a fallu batailler dans ses propres rangs pour imposer cette idée que l'avenir de l'Allemagne se trouvait dans une colonisation de l'Est européen. C'est lui-même d'ailleurs, au tout début de sa carrière politique, donc à partir de 1919-1920 surtout, lui-même n'est pas sur cette ligne. Il fait partie de toute cette mouvance d'extrême droite que l'on retrouve à Munich, où on parle plus volontiers d'une alliance avec la Russie. Alors, évidemment, pas d'une Russie bolchevique, parce qu'à l'époque, personne ne pense que ce régime est viable. Tout le monde pense qu'il va disparaître, mais on se voit bien prendre le contre-pied de la politique de Guillaume II et s'allier avec une Russie non-bolchevique contre l'Occident. L'ennemi principal, c'est cet Occident, cette France, cette Angleterre, ces États-Unis, qui nient la spécificité culturelle de l'Allemagne, qui veulent l'étouffer dans les chaînes de Versailles. Et c'est ça qu'Hitler, au début, soutient dans ses premiers discours. Il a de très nombreux contacts avec des Russes. Il y a forte diaspora russe à Munich, des Russes blancs, qui l'entretiennent dans cette idée. Et puis, il y a un tournant qui va s'opérer au tout début de 1923, qui va s'accélérer en 23 et 24, où il va faire un choix absolument draconien de cette idée que l'Allemagne, l'avenir de l'Allemagne se joue dans un espace vital qui serait gagné à l'Est. Évidemment, à l'Est, ça peut être la Pologne, mais la Pologne, c'est trop petit, visiblement, pour satisfaire les ambitions d'Hitler. Et surtout, la Pologne ne satisferait pas les besoins en matière première d'un grand État allemand. Donc Hitler développe dans Mein Kampf toute une vision démographique, stratégique et géopolitique où la conquête des terres russes semble réunir tous les atouts pour assurer la domination raciale des Germains sur l'Europe et après sur le monde. Cette vision, elle va rencontrer des résistances. Par exemple, quand on lit le journal de Goebbels, qui est un homme de l'Ouest de l'Allemagne à l'époque, on est frappé par le fait que Goebbels n'est pas du tout sur cette ligne-là. Pour lui, l'ennemi, c'est la France et la Grande-Bretagne, les nations mercantiles, comme il les appelle. Ce qu'il partage avec Hitler déjà, c'est l'antisémitisme, ça c'est certain. Mais pas la haine des Russes. C'était au contraire une espèce de russophilie. Et c'est que très progressivement, et après plusieurs rappels à l'ordre d'Hitler, que Goebbels va s'aligner sur cette vision d'une nécessité expansionniste vers l'Est. Et quand je parle de Goebbels, on pourrait en citer encore d'autres, notamment les frères Strasser, et aussi encore bien d'autres qui ne voient pas l'avenir de l'Allemagne de cette façon-là. C'est donc Hitler qui est, depuis l'origine, le moteur de cette idée d'une expansion vers l'Est. C'est quelque chose qu'il a toujours à l'esprit. Néanmoins, ça ne veut pas dire que cela devait forcément se produire. On ne peut pas prendre l'histoire par la fin, c'est trop facile, puisque nous connaissons la fin. Il fallait aussi que les conditions les conditions du développement de l'Europe s'y prêtent. Déjà, il y avait assez peu de chance au départ qu'Hitler arrive au pouvoir. Il a fallu quand même la grande crise de 1929 dévaste l'Allemagne et que la République de Weimar implose en partie sous le fait de l'hostilité de Staline à une alliance avec les sociaux-démocrates, pour que Hitler arrive au pouvoir. C'est déjà le premier miracle catastrophique, entre guillemets. Le deuxième, fallait qu'il puisse réarmer. C'est-à-dire, c'est le deuxième miracle catastrophique, qu'il fallait que la France et l'Angleterre le laissent faire. Cette Angleterre, toujours inquiète de la naissance de l'impérialisme français, est plutôt intéressé à son empire qu'à ce qui se passait en Europe. Et cette France qui ne croit pas avoir les moyens d'arrêter Hitler par les armes, alors qu'au début, elle les avait, il le laisse faire. Ça, c'est le deuxième miracle, c'est qu'il reconstitue son armée, reconstitue sa puissance au cœur de l'Europe. Et puis la troisième condition, qui est une condition militaire et stratégique, et ça, c'est le troisième miracle catastrophique qui joue en faveur d'Hitler, c'est l'effondrement de la France en mai et juin 1940, qui alors là, pour le coup, lui ouvre tout à coup des perspectives stratégiques extraordinaires. Encore une fois, tout ça, c'est des conditions qu'il ne pouvait pas prévoir à l'avance.
Bien sûr. Et d'ailleurs, en 1939, Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, et Molotov, ministre des Affaires étrangères de l'URSS, signent un pacte de non-agression avec une clause secrète qui prévoit de se partager des zones d'influence. Pourtant, dans Mein Kampf, Hitler consacre tout un chapitre à l'extension vers l'Est, et notamment vers cet État judéo-bolchévique, comme il l'appelle. Et on sait que Staline l'a lu, puisqu'il y a les annotations de Staline. Staline, qui était un grand lecteur, d'ailleurs.
Il a été traduit par Zinoviev. Zinoviev, qui a été emprisonné par Staline, l'a traduit en russe.
Alors, je vous propose de faire une courte page de publicité et on se retrouve pour répondre à cette question. Pourquoi Hitler a-t-il signé ce pacte et pourquoi Staline, lui aussi, a-t-il signé ce pacte alors qu'il connaissait les intentions belliqueuses d'Adolf Hitler ? Cette invasion était loin d'être évidente et que c'est Hitler qui a imposé au sein du nazisme et après avoir lui-même évolué sur la question, l'idée d'une extension vers l'Est et vers la Russie. On se demandait juste avant la pause publicitaire pourquoi le pacte germano-soviétique d'août 1939 entre Adolf Hitler et Joseph Staline.
Alors, du point de vue d'Hitler, il est clair, les choses sont très faciles à expliquer. Du point de vue d'Hitler, ça a un intérêt tactique immédiat qui est celui de ne pas craindre un appui de l'URSS à la Pologne. On va dire que c'est assez tardivement qu'Hitler s'est converti à l'idée d'une attaque de la Pologne, contrairement à ce qu'on continue à lire aujourd'hui. Il a cherché une entente avec les Polonais, il a tenté de faire ce que Poutine veut faire aujourd'hui avec l'Ukraine, c'est-à-dire de les vassaliser. Ça n'a pas marché, dans la mesure où il y a eu des demandes territoriales qui sont arrivées que les Polonais n'ont pas acceptées. Donc Hitler a décidé, encore une fois tardivement, donc vraiment au tout début 1939, il a décidé de régler le problème par les armes. Mais se posait le problème de l'attitude de l'Union soviétique, qui possède une frontière commune avec la Pologne, alors que la France et l'Angleterre, évidemment, n'en ont pas. Hitler avait besoin de s'assurer que Staline n'interviendrait pas, et surtout, je pense que c'est une de ses motivations principales, il avait besoin de pouvoir rassurer ses militaires en leur disant « Non, nous n'allons pas vers une guerre sur deux fronts », parce que c'était la hantise de l'état-major allemand, c'est de recommencer l'erreur de la Première Guerre mondiale, où le Reich de Guillaume II avait dû se battre à l'Est et à l'Ouest. Donc Hitler veut rassurer aussi ses militaires en disant « Non, je vais trouver une solution diplomatique qui va nous permettre de liquider en toute quiétude la Pologne, sans craindre d'être en guerre contre l'Union soviétique. » Donc a germé assez soudaine, parce que c'est assez vite qu'il s'est converti à cette idée. Jusque-là, il avait toujours repoussé les avances discrètes de Staline. Parce que Staline, lui, on va y revenir, n'avait jamais renoncé tout à fait à l'idée de jouer double jeu avec les Allemands et entre les Allemands et les Occidentaux. Donc Hitler se décide et c'est lui qui prend l'initiative. Ce n'est pas Staline, c'est vraiment Hitler qui presse tout à coup, très pressé à partir de mars, avril, mai, commence à presser les choses et à envoyer des signaux très forts vers Moscou, d'abord sous la forme d'un traité de commerce, puis finalement il décide d'envoyer, quand évidemment il apprend qu'une délégation franco-britannique se dirige vers Moscou pour négocier quelque chose avec Staline en cas d'attaque de la Pologne, il décide de couper l'herbe sous le pied des Occidentaux et d'envoyer Ribbentrop. Et là aussi, il demande à Staline une réaction très très rapide. Hein. C'est encore une fois, là, c'est Hitler qui est la force motrice de ce pacte. Et il envoie Ribbentrop. Staline, de son côté, qui constate que les discussions avec les Occidentaux ne vont probablement pas assez vite et qui a fait d'autres calculs, accepte de recevoir Ribbentrop. Et en 48 heures, on se met même pas, en une nuit, on se met d'accord. Et le 23 août 1939, le monde stupéfait apprend la signature d'un pacte de non-agression entre ceux qui passaient pour les deux pires ennemis du monde. Maintenant, regardons les choses du point de vue de Staline. Du point de vue de Staline, cet accord a un avantage considérable sur l'accord qu'il pourrait toujours négocier avec les franco-britanniques. C'est que Hitler lui offre deux choses, de demeurer neutre, il ne demande pas d'entrer en guerre, et lui offre un partage de l'Europe orientale, c'est-à-dire lui offre les trois pays baltes, une moitié de la Pologne, et accepte même que la Bessarabie roumaine lui revienne. Les Occidentaux, eux,
ce qu'on appelle aujourd'hui la Moldavie.
Kishinev. Et si vous voulez, il y a quand même une disproportion énorme. L'alliance avec les Occidentaux, c'est la guerre contre l'Allemagne, pour défendre la Pologne, en admettant que la Pologne accepte le passage des troupes soviétiques, mais d'une façon ou d'une autre, c'est la belligérance, alors que l'alliance avec Hitler, c'est rester neutre et recevoir un gros dédommagement, un gros paiement territorial en échange. Plus d'autres avantages considérables sous la forme d'une assistance technique sur laquelle on va se mettre, sous la forme d'accords commerciaux et techniques sur lesquels les deux puissances vont très vite se mettre en accord. Donc, pour Staline, l'avantage est énorme et c'est avec le plus parfait cynisme qu'il signe, puisque en signant, il sait qu'il scelle le destin de la Pologne. C'est quand même une raison supplémentaire de l'hostilité farouche des Polonais qu'on voit aujourd'hui si forte au conflit ukrainien contre leurs voisins russes. C'est que c'est de la façon la plus cynique que Staline a accepté, donc a donné en quelque sorte le feu vert à Hitler pour attaquer. Parce que ce pacte germano-soviétique, il est quand même tout à fait curieux. Il est même exceptionnel dans l'histoire diplomatique, dans la mesure où l'Union soviétique maintient accepte de signer un papier sur lequel n'est pas évoquée la clause d'agression. C'est-à-dire que, quelle que soit l'attitude de l'Allemagne, l'Union soviétique définit sa position, même si l'Allemagne attaque. Normalement, quand vous signez ce type de traité, vous prenez soin de dire que vous acceptez d'appuyer l'État avec lequel vous signez, à condition qu'il n'y ait pas une attaque provoquée. Mais là, il n'y a pas cette clause. C'est-à-dire que Staline, de toute façon, encore une fois, la façon la plus cynique, sacrifie la Pologne, met la main sur les trois pays baltes, la moitié occidentale de orientale de la Pologne et la Roumanie. Pour lui, c'est tout bénéfice. Et évidemment, il n'a pas bargainé longtemps entre les offres occidentales et les offres allemandes. Ce faisant, nous savons qu'il faisait un très mauvais calcul, mais lui, il n'y voit qu'un avantage parce que, et ça, c'est peut-être l'essentiel à comprendre pour nos auditeurs, c'est que Staline est persuadé que si Hitler est en guerre contre les franco-britanniques, il y en a pour des années. L'armée française est réputée la plus forte d'Europe, sinon du monde. Pour lui, l'Allemagne va s'enliser à l'ouest. Ce qui lui laisse tout le temps d'opérer la grande transition que l'armée rouge est en train de faire en termes d'armement et de doctrine. Donc ça lui permet de moderniser son armée et d'attendre tranquillement le bon moment pour jeter son poids dans la balance. Et à partir de là, s'ouvre à lui des perspectives considérables, comme par exemple la possibilité de soviétiser une bonne partie de l'Europe. Donc pour lui, position d'attente, position de force, tout de suite une part du gâteau, il ne résiste pas, il signe.
Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est surpris lorsque Hitler attaque au mois de juin 1941, parce que d'abord il n'avait pas prévu la rapidité de la victoire allemande face à la France, et puis il pensait que Hitler se débarrasserait d'abord de l'Angleterre, qui n'a jamais cessé le combat, avant de commettre la même erreur qu'ont commis les Allemands durant la Première Guerre mondiale, à savoir ouvrir un deuxième front à l'Est.
Vous avez parfaitement résumé la situation. Vous avez eu un raisonnement qui est de type logique, rationnel. C'est le stratégique, c'est le raisonnement qu'a eu Staline, qui pèse, si vous voulez, il a une feuille dans laquelle il met les plus et il met les moins. Dans les moins, il y a le fait qu'il sait très bien que la parole d'Hitler ne vaut pas grand-chose, qu'il n'a pas une sympathie excessive pour le régime nazi, certainement. Mais dans la colonne des plus, il voit que l'Allemagne a signé deux traités de commerce avec l'Union soviétique qui lui livrent ce dont elle a le plus besoin, c'est-à-dire du blé, des oléagineux, des matériaux stratégiques, du pétrole. Ça, c'est un cadeau royal alors qu'elle est soumise au blocus de la Royal Navy, qu'elle ne peut plus importer. En plus, on ne le dit jamais, mais les Soviétiques acceptent de mettre la totalité du transsibérien au service du commerce extérieur allemand pour importer alors d'autres matières qui viennent d'Asie, qui sont aussi des matières stratégiques, comme le caoutchouc. Ouais. Il n'y a pas de guerre moderne sans caoutchouc. D'où l'Allemagne va-t-elle sortir son caoutchouc? Sa production de caoutchouc synthétique est très insuffisante.
Qui sert aux pneus, notamment.
Bien sûr, aux pneus. Donc là, il y a un cadeau absolument royal. Donc il se dit, alors que la guerre n'est pas terminée à l'Ouest. Pourquoi Hitler prendrait-il le risque d'une guerre sur deux fronts en attaquant l'URSS alors que je lui offre tout ce qu'il veut ? Donc il pense qu'Hitler bluffe. Il pense qu'Hitler fait monter les enchères en provoquant des concentrations à sa frontière et qu'il n'attaquera pas. Alors toute proportion gardée, c'est ce qui est arrivé à la plupart des observateurs au mois de février dernier, où je vous rappelle que le renseignement américain ne cessait de nous dire « Regardez ces concentrations de troupes aux frontières de l'Ukraine, il y en a partout, hein, ça allait de la mer d'Azov jusqu'au sud de la Biélorussie, mais la plupart des observateurs à l'époque pensaient « C'est du bluff, Poutine bluff pour obtenir plus de Zelensky ». De la même façon, jusqu'au dernier moment, je dirais jusqu'à 24 heures avant l'attaque, Staline pense qu'Hitler bluffe. Il a massé ses troupes, il sait parfaitement, il sait tout, il connaît l'ordre de bataille allemand en détail, Staline. Il pense qu'il bluffe pour obtenir de lui toujours plus. Et il est prêt à aller très loin aujourd'hui, on le sait. Staline est prêt à céder encore un peu plus pour garder ce statut de non-belligérance parce que son armée n'est toujours pas prête.
Elle n'est pas prête, d'autant que vous le montrez très bien dans votre ouvrage, Barbarossa, la guerre absolue aux éditions Perrin. Le livre de poche. Vous montrez très bien que c'est des armes offensives que Staline masse aux frontières, c'est-à-dire qu'il pense qu'il sera, lui, le premier à passer à l'attaque, et de même que la plupart des avions sont sur des aérodromes très proches de la frontière, il ne s'attend pas du tout à l'attaque surprise des Allemands, et son armée va le payer très cher. Alors comment Joseph Staline réagit-il au moment de l'attaque allemande ?
Alors, j'aurais juste revenir sur ce que vous venez de dire, qui est juste, mais je ne voudrais pas qu'il y ait la moindre trace d'ambiguïté. Je ne suis pas, évidemment, de ceux qui suivent les délires de Souvorov et qui pensent que Hitler n'a fait que devancer une attaque de Staline. Staline n'avait pas du tout l'intention d'attaquer en 1941. Ça, il faut pas. C'est comme ça qu'Hitler a justifié auprès de son peuple l'agression. L'opération Barbarossa, en disant « ils vont nous attaquer, donc je n'ai fait que prendre les devants, hein, le vrai responsable, c'est Staline ». Non, Staline n'avait pas l'intention d'attaquer en 1941. Mais néanmoins, ce que vous avez dit est tout à fait juste, le logiciel doctrinal de l'armée rouge est purement offensif. Hein. Ça, c'est un legs du maréchal Tourachevski que Staline a fait fusiller après un procès parodique en 1937. Mais l'armée rouge est entièrement dressée pour l'offensive. Donc, les Allemands, en attaquant, vont la surprendre, non pas en position défensive, c'est-à-dire puissamment retranchée, où tout est organisé pour encaisser un assaut. Non, ils vont saisir une armée qui est faite pour attaquer, mais qui n'est pas prête à attaquer, mais qui n'est pas prête non plus à défendre. Donc, c'est la situation la meilleure, optimale, pour la Wehrmacht, elle va cueillir une armée qui n'est ni prête à l'offensive, ni prête à la défensive, à l'offensive, et qui en plus est en pleine transition en matière d'armement.
On a évoqué la semaine dernière l'impréparation de l'armée soviétique au moment de l'attaque allemande, qui n'est ni sur la défensive, ni prête à attaquer l'Allemagne, et qui est donc, entre guillemets, cueillie à froid par la Wehrmacht. Comment réagit Staline face à cette attaque qu'il n'avait pas prévue ?
On ne va pas revenir sur les raisons qui font qu'on en a parlé, que jusqu'au bout il n'a pas cru à une attaque allemande, mais sa réaction est intéressante parce que, si vous voulez, en 1956, au moment du 20e congrès, Nikita Khrouchtchev va faire courir le bruit, il va l'écrire, et que Staline s'est effondré. Au moment constatant l'échec total de sa vision stratégique de la guerre, il s'est effondré et qu'il a fallu un bon moment pour qu'il surmonte le choc. En fait, il se trouve que dans les années 90, le carnet de rendez-vous de Staline au Kremlin a été publié et il suffit de le regarder, vous verrez que cet homme ne s'est pas effondré. Tous les jours, il reçoit des dizaines de personnes et il est pour mettre son pays en ordre de marche dans cette guerre. Il n'y a qu'un jour où il y a un passage à vide, c'est le moment, le jour où le 28, on apprend la chute de Minsk, et donc l'encerclement de deux des grandes armées que les Soviétiques avaient en Biélorussie. Et là, pendant une journée, le 29 juin 1941, il se retire à Sadatcha de Kountsevo et il est aux abonnés absents. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est une délégation dans laquelle Molotov a joué un rôle moteur, avec Beria, avec Kaganovitch, qui va à la datcha et qui demande à voir le camarade secrétaire général, hein, qui cumule tous les pouvoirs, et qui lui propose de mettre sur pied un nouvel organisme, un comité de défense de l'État, le GKO, et de lui en confier la direction. Staline dit que Khrouchtchev a eu l'air surpris. En fait, je n'en crois pas un mot. Je pense qu'il savait très bien, parce qu'on ne vient pas comme ça à la datcha déranger le patron. Je pense qu'il savait ce qu'il venait lui proposer, et il se reprend. Ce passage à vide n'a donc duré que quelques heures. On peut considérer qu'il est négligeable. Et après, et c'est incontestable, malgré toutes les erreurs qu'il va faire, la première, ça a été celle de se laisser surprendre en juin 1941, Staline va animer véritablement cette lutte contre la Wehrmacht. Donc, passage à vide extrêmement léger et qui ne dure pas.
On peut même évoquer l'hypothèse selon laquelle ça ne serait pas forcément un passage à vide, mais une tactique ou une stratégie inspirée par Ivan IV, dit le Terrible, ouais, qui s'était retiré et qui avait forcé ainsi les délégations à aller le chercher dans un monastère et qui avait dit « j'accepte de revenir, mais à condition que vous me donniez plus de pouvoir ». Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée ?
Je pense que ça ne tient pas parce que les pouvoirs, il suffit de ne même pas les demander. Mais non, je pense que ça ne tient pas. Je crois qu'il a accusé le coup de la chute de Minsk. Il y a d'ailleurs une scène très pénible qui est racontée par deux personnes différentes où il insulte le général Joukov, qui est le chef d'état-major général de l'armée rouge. Joukov est tellement humilié que... il est très émotif et les larmes commencent à couler et il faut l'emmener dans une pièce à côté. Donc il y a vraiment un moment où Staline se rend compte, c'est là où il dit tout est foutu, hein, on a gâché l'œuvre de Lénine. Donc non, je pense qu'il y a vraiment eu un moment de crise intense. Il ne s'attendait pas à ce que Minsk tombe au bout d'une semaine.
Minsk en Biélorussie,
vous vous rendez compte, c'est une pénétration de 400 km en une semaine. C'est pire que ce qui s'est passé en France. Il ne s'attendait pas à ça, vu la quantité d'argent que l'Union soviétique a investi dans l'armée rouge depuis 1932-1933. Ce résultat militaire le laisse littéralement anéanti. Et je pense qu'il a... Ce petit moment de flexion, le 29 juin, ce n'est pas joué, ce n'est pas une comédie, ce n'est pas l'affaire d'Ivan IV qui revient. Il n'avait pas besoin de ça pour obtenir tous les pouvoirs. Toujours est-il qu'à partir de là, il n'y a plus question de parler de fléchissement de Staline qui sera vraiment l'homme d'acier et qui va tenir la barre au prix d'un océan de sang versé. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, c'est quand même...
20 millions de morts.
C'est 27 millions de morts pour l'Union soviétique. C'est quelque chose d'absolument effroyable. Maintenant, il faudrait qu'on parle aussi du caractère impitoyable de la façon dont il mène la guerre et une partie de ces 27 millions de morts qui sont à mettre au compte des méthodes de Staline et de l'armée rouge.
Oui, alors justement, on peut évoquer le caractère génocidaire de cette guerre que mène l'Allemagne, mais aussi les alliés de l'Allemagne, car l'Allemagne n'est pas toute seule dans cette guerre. Participe à l'offensive des troupes hongroises, roumaines, slovaques, finlandaises, même des détachements, par exemple, espagnols, le corps azul.
La Légion des volontaires français.
La Légion.
La LVF.
Oui, avec Jacques Doriot, par exemple. Quelle est la motivation des différents pays qui se rangent aux côtés de l'Allemagne dans cette, on pourrait qualifier de croisade anti-bolchevique?
Alors, si vous voulez, on peut pas dire que Hitler soit comme Winston Churchill, un homme capable de tisser des alliances solides. En réalité, ces alliés sont des alliés de circonstances qui tous poursuivent des buts de guerre qui sont très différents des siens. Pour lui, c'est clair, il veut son espace vital à l'est, hein, il veut détruire le Il veut détruire l'État russe, hein, jusque dans ses tréfonds. Et il a assigné à ses troupes. Alors, des buts qui sont extrêmement vagues, hein, parce que ça change avec le temps, mais en gros, il voudrait conquérir toute la Russie et ses terres limitrophes, jusqu'à Iline, qui irait de Arkhangelsk dans le Grand Nord, jusqu'à Astrakhan, aux bouches de la Volga.
Vous voyez, donc la partie peuplée
les trois quarts de la Russie,
de l'URSS, utile, ouais.
Et de façon à pouvoir se mettre en état de bombarder périodiquement l'Oural. Mais c'est pas très clair. Tout ce qu'on sait, c'est que il veut mettre la main sur 3 à 4 millions de kilomètres carrés dans la partie occidentale de l'Union soviétique. Alors, ses alliés, eux, ont d'autres raisons d'entrer en guerre. Alors, prenons le cas des Finlandais. Alors, les Finlandais, c'est très clair. Pour eux, il s'agit de récupérer les terres que Staline leur a arrachées pendant l'hiver 39-40. Ils veulent remettre la main sur Petsamo et surtout sur la Carélie et sur la deuxième ville de leur pays, Vipouli, Viborg. Pour eux, une fois qu'ils auront conquis, repris ce qui leur a été arraché, il ne sera pas question d'aller plus loin. Hein, ils vont... D'ailleurs, ce sera un des problèmes des Allemands, c'est que chaque fois qu'on évoquera un encerclement complet de Leningrad, les Finlandais se feront tirer l'oreille. Donc déjà, les Finlandais mènent une guerre à part. Les Roumains, c'est encore un cas particulier. La Roumanie a été victime de l'appétit de ses voisins, hongrois et bulgares, qui lui ont arraché des terres suite à un arbitrage dans lequel Hitler, l'arbitrage de Vienne, s'est rangé du côté des Magyars et des Bulgares. Pour eux, il s'agit... Il y a deux objectifs. Il s'agit d'abord de reconquérir la Bessarabie, hein, l'actuelle Moldavie, éventuellement de pousser la roumanisation de l'Ukraine jusqu'à Odessa, mais surtout, il s'agit de se mettre dans les meilleurs termes avec Hitler, c'est-à-dire de lui offrir le maximum d'assistance pour l'amener à revenir sur l'arbitrage de Vienne et récupérer ses terres qu'il a données aux Magyars et aux Bulgares, notamment la Transylvanie. Hein. Donc ça, là aussi, il y a des objectifs de guerre très particuliers. D'ailleurs, les Roumains sont tellement à couteau tiré avec les Hongrois que la Wehrmacht se débrouillera toujours pour que jamais ces unités, les unités des deux armées ne soient côte à côte. Hein. Et c'est comme ça pour pratiquement tous les alliés de l'Allemagne. Ils ont des raisons très différentes de celles de l'Allemagne d'entrer en guerre. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que dès la fin de 42, juste début de 43, tous ces pays ne vont plus avoir qu'une idée, c'est de se retirer de cette guerre, si possible avec un arbitrage anglo-saxon. Dès mars 43, ça, dans tous les coins, on prend des contacts avec Londres et New York et Washington.
Cette guerre, vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, c'est une guerre qui est d'emblée une guerre génocidaire. Et vous prenez par exemple l'exemple du siège de Leningrad, dont vous dites que ce siège de Leningrad qui a duré 9 mois, l'intention des Allemands n'était pas simplement d'amener la reddition de Leningrad, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg, mais qui était réellement de liquider l'ensemble de la population pétersbourgeoise.
Il a duré 3 ans, le siège.
3 ans.
Trois ans. Ouais. Bon. En fait, typiquement, on voit qu'en effet, le groupe d'armée nord avait reçu des instructions qu'il avait d'ailleurs lui-même en partie anticipées, à savoir que même si on avait des sorties en masse de population civile constituée de femmes et d'enfants qui fuyaient la famine, il fallait les accueillir avec l'artillerie lourde et les mitrailleuses. Donc de toute façon, Leningrad, ce n'est rien d'autre qu'un camp de concentration à ciel ouvert. Toute la population doit y passer. Ça, c'est dans le projet hitlérien. De la même façon, il avait été prévu en amont que, une fois la victoire militaire assurée, le commerce des grains devait être entièrement réorienté vers l'Allemagne, ce qui supposait 30 à 40 millions de morts. Ça a été froidement analysé et préparé lors d'une réunion dans laquelle était la force motrice, c'était un Herbert Backe, qui était le secrétaire d'État à l'alimentation du Reich. Au départ, la question des Juifs n'est pas présente même dans le dressage des Einsatzgruppen. Hein. Les Einsatzgruppen, ils existent depuis 1938. Hein. On les voit même à Prague hein, pendant quand ils occupent les Sudètes. On les voit aussi en mars 39, donc à Prague. On les voit en Pologne. Et simplement, on double les effectifs pour la campagne contre l'Union soviétique. C'est une troupe politique qui doit, sur les arrières de l'armée allemande, liquider tous les ennemis du Reich. Mais, encore une fois, on n'a jamais retrouvé un document qui dise « il faut liquider les Juifs en priorité ». Les Juifs sont partis d'une énumération, hein, d'une énumération dans laquelle on trouve essentiellement tout ce qui est soutien du régime bolchevique. Mais pour tous les chefs nazis, il est clair que les Juifs sont l'épine dorsale de ce système qu'ils appellent judéo-bolchevique. Hein. Mais, encore une fois, l'anéantissement de communautés juives entières en Union soviétique n'est pas préparé en juin 1941. Elle va se produire sur le terrain. Elle va se produire sous le terrain, ça c'est un des aspects génocidaires. D'abord en exécutant en juin et en juillet les hommes en âge de porter les armes, en gros de 15 à 50 ans, puisqu'on juge qu'ils sont tous potentiellement des ennemis de l'Allemagne, hein, en tant que juifs et en tant que soutien du régime bolchevique. Et à partir du mois d'août, on voit alors là la liquidation complète des communautés avec les femmes, les enfants et donc les hommes qui ne sont pas en âge de porter les armes, moins de 15 ans, plus de 50 ans. Ça va se faire sur le terrain, dans une espèce de dialectique mortifère entre les initiatives des chefs de la base, des Einsatzgruppen et des différents groupes de SS, notamment des deux régiments de cavalerie SS de Fegelein, et des instructions qui viennent de la hiérarchie SS elle-même. Hein, c'est une espèce de... D'ailleurs, il y a une discussion entre les spécialistes de la Shoah. Un jour, Tal Brutman m'a dit un jour qu'il pensait que la destruction des Juifs soviétiques ne faisait pas partie de la Shoah. C'est-à-dire, ce qui se passe pendant l'opération Barbarossa, pour lui, ce n'est pas encore la Shoah. Pour lui, la Shoah, elle se met en place à partir, il me corrigera si je me trompe, à partir de la conférence de Wannsee, c'est-à-dire à partir du moment où la totalité des organisations étatiques allemandes se réunissent pour décider de la liquidation de tous les Juifs à l'échelon européen. Donc ce qui se passe, moi j'ai tendance à faire de ce qui s'est passé en 1941, la répétition générale quand même, sur le terrain, alors c'est vrai dans des conditions très différentes de la Shoah, parce que là il n'est pas de question de camp, il n'est pas question de déplacement massif par train, on tue les populations tout près de leur domicile, hein, localement, au vu et au sud de tout le monde.
En les fusillant.
En les fusillant.
Creuser des fosses communes.
On les laissant s'abattre dans des fossés anti-chars. Alors, cet aspect génocidaire, il a... Je pense que je vais anticiper une de vos questions, mais puisque je suis lancé, permettez-moi de continuer. Il faut imaginer ce que c'est que l'Union soviétique en juillet, août, septembre, octobre 1941. Une armée rouge qui recule en laissant des quantités de prisonniers invraisemblables, des millions et des millions. Des Einsatzgruppen qui avancent derrière la Wehrmacht et qui, avec la complicité quotidienne et physique, matérielle de la Wehrmacht, exécutent des centaines de milliers de Juifs. Des camps de prisonniers de l'armée rouge où la population voit de ses yeux les hommes mourir de faim, les scènes de cannibalisme. Toute femme qui s'approche des barbelés pour donner à manger, jeter des pommes de terre, est immédiatement abattue. On a donc, pour cette population soviétique, même si elle a accueilli dans pas mal d'endroits à bras ouverts la Wehrmacht, il faut quand même le dire et le répéter, hein, les Allemands étaient bien accueillis, et pas seulement en Ukraine, y compris en Russie, eh bien, peu à peu, quand même, ces populations se sont rendues compte qu'elles avaient affaire à une autre Allemagne que celle de 1914 à 1917. Elles avaient affaire à un régime profondément génocidaire. Et c'est cette attitude des Allemands qui explique l'attentisme, en dehors de quelques groupuscules de collaborateurs, l'attentisme profond des populations, qui sont passées d'une attitude sympathique vis-à-vis de la Wehrmacht au début, à un attentisme, en attendant voir comment la guerre va retourner. Or, nous savons la guerre commence à tourner mal pour les Allemands à la fin de 1941.
Alors, il y a quand même quelques groupes de collaborateurs, notamment Stepan Bandera en Ukraine, et la participation active, parfois, des populations locales à ce qu'on appelle justement cette Shoah par balle, qui a fait 1,5 million de morts, tout de même.
Oui.
Par exemple, pour amener le matériel, amener les Juifs qui sont regroupés avant d'être exécutés. C'est, voilà, tout ça se fait au vu et au
su. Tout le monde. C'est ça qu'il faut absolument répéter. Hein. Personne ne peut l'ignorer. On n'est pas caché derrière les barbelés d'Auschwitz-Birkenau. Tout le monde le voit. Tout le monde le sait. Les populations sont là. Les enfants, les femmes. Juste un petit mot quand même. C'est qu'avant la Shoah par balle, il y a quand même eu des pogroms géants qui ont été organisés, notamment à Lviv, Lemberg des Allemands, et à Kovno, donc Taronas également, et à Yassi. Alors ça, c'est un pogrom, c'est un pogrom roumain.
Oui. Hein,
Les Allemands y étaient évidemment favorables, mais c'est une organisation, une initiative entièrement roumaine, avec des spécificités roumaines. Mais à Lviv, on a, entre le moment où l'armée rouge s'en va et où la Wehrmacht arrive, se déclenche en partie à l'instigation de l'UPA, donc des indépendantistes ukrainiens de Bandera, se déclenche un pogrom géant qui va immédiatement être relayé par les Einsatzgruppen qui arrivent derrière et qui va provoquer la mort de plusieurs milliers de Juifs de Lviv. Et vous avez la même chose, alors, complètement de l'autre côté en Lituanie, à Kaunas, à Kovno des Russes. Vous avez également un pogrom qui est c'est très difficile de dire qu'il y a une partie spontanée, parce que moi j'ai retrouvé des traces d'organisation par les indépendantistes lituaniens dès le départ. Mais je pense qu'il y a aussi une partie de la population qui a complètement assimilé l'idée que les Juifs ont été les principaux soutiens de l'occupation militaire soviétique entre 1939 et 1941. Si j'ai encore un peu le temps, il faudrait quand même le faire comprendre bien à nos auditeurs. C'est leur expliquer le contexte dans lequel se passe cette occupation allemande, ce qui s'est passé les 2 ans avant.
Oui, bien sûr.
Entre le moment où Staline met la main sur les Pays-Baltes, donc les premières bases sont en 1939, mais ça peut, en juin 1940, qu'il occupe les 3 Pays-Baltes. Et c'est à partir de septembre 1939 qu'il occupe la moitié est de la Pologne. Et là, les troupes politiques de l'URSS, donc le NKVD, vont se livrer à des déportations massives de populations locales. Hein. Tout ce qui est intellectuel, commerçant, tous ceux qui socialement sont supposés ne pas pouvoir s'intégrer au système soviétique sont purement et simplement soit fusillés, soit déportés vers l'Est. Ça peut représenter jusqu'à 10% de la population. Soit dit en passant, les Juifs sont aussi concernés. Et sont aussi victimes, et même proportionnellement plus victimes, puisque parmi eux, il y avait beaucoup de commerçants dans ces régions-là, supposés ne pas pouvoir s'adapter à un régime soviétique, ils sont déportés comme les autres. Hein ? Mais ça, une majorité de la population ne le voit pas, et préfère croire ce que dit la propagande nationaliste, à savoir, les Juifs, c'est la 5e colonne du bolchevisme. Mais ça ne correspond pas à la réalité, parce que tout citoyen de bonne foi pouvait savoir que parmi ces déportés entre 1939 et 1941 qui étaient envoyés vers l'Est, il y avait proportionnellement autant, même plus de Juifs qu'il y avait de Lituaniens ou de Lettons, d'Estoniens ou de Polonais bontins. Mais néanmoins, on va voir ressurgir sans arrêt cette idée que les Juifs sont les fourriers, la cinquième colonne de l'armée rouge. C'est ce qui déclenche le pogrom atroce de Yassi, hein. On accuse les Juifs de guider les parachutistes soviétiques. C'est toujours la même histoire, partout. Hein.
La semaine dernière, nous avons évoqué le caractère génocidaire de l'offensive allemande, tant vis-à-vis des populations soviétiques dans leur ensemble, puisque l'idée était de prévoir la mort de 20 millions de soviétiques pour coloniser ces espaces, mais plus spécifiquement vis-à-vis des Juifs avec l'action des Einsatzgruppen, et parfois, la complicité, l'aide des populations locales, notamment avant l'élection des Einsatzgruppen, les pogroms de Lviv ou de Kaunas en Lituanie. Alors, l'Union soviétique ne s'effondre pas, car Sans doute que les Allemands pensaient que, hein, vous avez bien dit que, au départ, les Einsatzgruppen visent d'abord les soutiens du régime bolchevique, mais en fait, pour eux, c'est une évidence, le soutien, l'épine dorsale du régime bolchevique, ce sont les Juifs, et sans doute pensaient-ils qu'en exécutant les Juifs, eh bien, le régime bolchevique allait s'effondrer de lui-même, ce qui n'est pas le cas. Et autre, donc première surprise allemande, après-guerre, des chefs d'état-major allemands vont dire que l'offensive aurait pu réussir si Hitler n'avait pas divisé cette offensive en trois branches, une qui va vers le nord, vers les pays baltes, et qui vise Leningrad, une qui passe par le centre, vers la Biélorussie, et qui vise Moscou, et une troisième en Ukraine qui prend Kiev, Kharkov, et puis qui est censée se diriger vers le Caucase, mais qui va bifurquer en se divisant encore en deux vers Stalingrad. Est-ce que les Allemands pouvaient gagner cette guerre ?
Non, pas dans les conditions dans lesquelles ils l'ont menée et dans lesquelles ils l'ont définie. En gros, celui qui a popularisé cette thèse de « Ah, si on avait suivi mon plan, on aurait provoqué la destruction de l'armée rouge en 1941 », c'est le général Halder, qui est le chef d'état-major de l'OKH, qui est l'armée de terre allemande. Il avait au départ dit la solution du problème, soviétique, c'est Moscou. Il n'y a qu'un seul objectif, c'est Moscou. Moscou prise, l'Union soviétique va s'effondrer d'elle-même. C'est Hitler qui lui pense que le plus important, c'est la colonisation, donc c'est mettre la main sur les espaces importants, l'espace balte, d'où l'occupation de Leningrad, et les grandes richesses de l'Ukraine, comme vous l'avez dit. En fait, aucun de ces plans ne peut fonctionner, car tous postulent qu'on peut battre l'armée rouge en une seule campagne, c'est-à-dire une série d'opérations chaînées qui, toutes en 3 ou 4 mois, vont détruire cette armée rouge en rase campagne. Mais ça n'a absolument aucune chance d'être, ça, c'est pas possible. Je veux dire, on ne peut pas imaginer l'Allemagne détruire la plus grosse armée du monde. Je le répète, à l'époque, l'armée rouge est de loin l'organisme militaire le plus important au monde par le nombre des hommes et le nombre des armes. Donc de toute façon, ce que voulaient les Allemands, que ce soit Hitler ou ses généraux, c'est-à-dire une seule campagne de 3 à 4 mois qui terrasserait l'armée rouge, c'est impossible. Cette campagne n'avait de chance de réussir que si elle pouvait, que si elle était pensée sur plusieurs années à l'avance. Ce qui n'a pas été le cas. Donc les Allemands n'avaient aucune chance. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont poussé leur armée jusqu'à limite, et même au-delà des limites, de l'épuisement. Hein, normalement, quand ils se sont rendus compte qu'en 3 ou 4 mois, ce n'était pas possible, au lieu de faire une pause, de s'arrêter, de se retrancher, en sachant que l'hiver allait arriver, ils ont poussé, en espérant mettre la main sur Moscou, ce qui fait que leur armée tombe littéralement en morceaux à la fin novembre 1941. Ils l'ont poussé au-delà de ses limites.
Qu'est-ce qui a manqué à l'armée allemande ? Ce sont des hommes, du carburant, des matériaux de rechange. Qu'est-ce qui manque à l'armée allemande ?
Il lui manque tout. Son armée n'est pas suffisamment dimensionnée. Pensez quand même qu'ils attaquent l'Union soviétique avec moins d'avions qu'ils n'en avaient contre la France. Autant les soldats français à Sedan ont été dominés en permanence. Le ciel était noir de Stuka et de Messerschmitt et de Heinkel, autant en Union soviétique, la Luftwaffe, pour un territoire beaucoup plus important, a moins d'appareils, elle a 20% de moins. Donc là, on voit bien qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas assez de chars, il n'y a pas assez de troupes d'occupation derrière, il n'y a pas assez de divisions dans cette affaire. Et puis, effectivement, il y a les mauvais calculs logistiques. Les Allemands ont pensé que, comme en France, la logistique pouvait largement être motorisée. Mais même dans une discussion de café du commerce, on sait que l'Union soviétique n'est pas un pays qui brille par ses autoroutes, que le réseau routier n'a rien à voir avec celui de la France ni même de la Pologne. C'est un réseau routier qui est essentiellement non revêtu, fait de pistes qui sont très vite difficiles à pratiquer. Donc en pariant sur du tout motorisé, c'est-à-dire des files de camions, Les Allemands, encore une fois, répètent cette idée que la bataille, ça va être une bataille des frontières et que passé 300 à 400 kilomètres, le gros de l'armée rouge sera détruit et qu'après, ce ne sera plus qu'une tâche d'occupation qui pourra se faire à la limite par des trains pris localement ou même à cheval ou à pied, peu importe, puisqu'ils sont sûrs qu'il n'y aura plus d'armée rouge. Mais tout est faux dans ce calcul. Tout est faux. L'armée rouge a été détruite deux fois en 1941. Elle a été reconstruite deux fois. Et ils n'ont pas réussi à avoir sa peau. Tous les calculs l'ont été faux. Alors, le carburant, il en a manqué. Oui, localement, il y a eu des problèmes de carburant. Mais le gros mécompte, c'est d'avoir pensé que la logistique motorisée suffirait. Il est évident qu'en Union soviétique, on ne peut pas faire la guerre sans un réseau ferroviaire. Et les Allemands n'ont pas parié sur le ferroviaire. Le ferroviaire n'était qu'une rustine, qu'un appoint à une logistique qui devait être couramment motorisée. C'est la raison pour laquelle ils ont rasié tous les camions qu'ils ont pu dans toute l'Europe occidentale, notamment en France, jusqu'à se retrouver avec 2000 modèles différents, ce qui est évidemment impossible en termes de, par exemple, de gestion des pièces détachées. Donc là aussi, la logistique a été un des facteurs de leur défaite. Mais encore une fois, aucune possibilité, aucun cas de figure ne permet aux Allemands de détruire l'armée rouge, sauf un, qui est politique, mais qui est absurde, c'est qu'il aurait fallu que Hitler joue des cartes politiques partout, c'est-à-dire trouve des alliés locaux, les Ukrainiens, par exemple, leur donner l'indépendance, les Baltes leur donner l'indépendance, et leur demander, OK, indépendance, vous déclarez immédiatement la guerre à l'Union soviétique. La paysannerie russe, on dissout les kolkhozes, on rouvre les églises, on rétablit la liberté du commerce, mais toutes ces cartes, si Hitler les avait jouées, il n'aurait pas été Hitler. Et il n'aurait pas été un nazi. Vous voyez, il vient pour coloniser, il vient pour exterminer. Il ne va pas se mettre à jouer des cartes qui sont celles de la libération des peuples. Mais c'était en réalité la seule façon pour les Allemands, c'était de provoquer l'effondrement du régime. Mais pas un effondrement militaire, ça ne pouvait pas y arriver dans les conditions qu'il définissait, mais un effondrement de type politique. Et ça, le nazisme étant ce qu'il est, ça n'était pas à sa portée.
Avant la publicité, nous avons vu que l'offensive allemande ne pouvait pas réussir, que les Allemands manquaient de tout et qu'ils ont refusé, à cause de leur idéologie, des buts même de cette guerre, de jouer la carte politique de la libération des peuples baltes, ukrainiens et autres qui auraient pu servir d'alliés...
Et russes.
Et russes, bien sûr, qui auraient pu servir d'alliés aux nazis. Mais comme le but de cette guerre est génocidaire...
Et colonisateur,
vider l'URSS de sa population pour la remplacer par des populations germaines, eh bien, Hitler a refusé de jouer cette carte. Alors, il ne réussit pas à prendre Leningrad, il échoue à quelques kilomètres de Moscou, il ne réussit pas à prendre Stalingrad, et les Soviétiques vont donc passer à la contre-offensive.
Alors, cette contre-offensive, elle se produit les 5 et 6 décembre, donc la veille de Pearl Harbor, la veille de l'attaque japonaise dans l'Extrême-Orient. C'est une contre-offensive du pauvre, le général Joukov qui commande le front du centre, donc le front de l'Ouest, pardon, qui est chargé de défendre Moscou. Il a des armées de réserve qu'il a maintenues soigneusement cachées dans les forêts. Alors, ce sont des armées vraiment de pauvres, ce sont des armées qui ressemblent beaucoup aux armées de 14-18, c'est essentiellement des fantassins, des chevaux, quelques skieurs, très peu de blindés, peu d'aviation qui ne jouera pas beaucoup de rôle parce que la météo est calamiteuse. Et avec ces troupes qui, en plus, n'ont pas reçu d'instruction, ont été élevées hâtivement, Joukov va quand même réussir à déséquilibrer une armée allemande dont je répète qu'elle est complètement au bout du rouleau. Ils sont en état de fatigue, ils ne sont plus capables d'attaquer les Allemands. Ils vont être cueillis à froid, c'est le cas de le dire. Mais ce n'est pas la météo. La météo, elle a, à mon avis, autant handicapé les soldats soviétiques que les soldats allemands, contrairement à toutes les histoires qu'on nous raconte depuis 75 ans. Parce que jusqu'au 5 décembre, la météo n'est pas défavorable aux Allemands. Et c'est le jour où Joukov déclenche sa contre-offensive que tout à coup, le thermomètre s'effondre à moins 20 et que surtout de fantastiques abats de neige vont compliquer la tâche des soviétiques. Donc c'est pas
des Allemands.
Des soviétiques compliquer la tâche des soviétiques dans leur assaut.
Ça va compliquer
terriblement la tâche des soviétiques parce que même leur logistique va se trouver en péril. Il est tombé près de 2 mètres de neige. Enfin, c'est un cauchemar. La visibilité Vous voyez clair de 11h du matin à 3h de l'après-midi. Après, il faut tout arrêter. Le thermomètre perd encore 10 degrés. Donc, c'est une offensive qui est assez décousue, où il n'y a pas de belles manœuvres. On pousse. Les Allemands sur les routes. Et on arrive à dégager Moscou, donc de 100 à 200 km selon les endroits. Ça, c'est la contre-offensive de Moscou. Elle est fondamentale parce qu'elle ruine évidemment l'espoir d'Hitler de s'emparer de la capitale, et elle marque l'échec de l'opération Barbarossa, un échec absolument sans appel. Vous vouliez me poser une deuxième question sur...
Les échos de cette guerre.
Les échos actuels. Ces échos sont... Alors, déjà, je voudrais faire remarquer à nos auditeurs que les Ukrainiens et les Russes sont du même côté en 1941. Ce sont des citoyens soviétiques. Les soldats ukrainiens ne se sont pas moins et pas plus mal battus que les citoyens russes ou les citoyens arméniens ou les citoyens juifs de l'Union soviétique. Tout le monde s'est battu contre l'envahisseur allemand. Tout le monde a souffert de l'envahisseur allemand. Tout le monde a souffert des rigueurs de l'armée rouge également et de celle du système stalinien. Mais il se trouve que... Dans les années, à partir des années 60-70, le système soviétique, qui constate que le mythe de 1917 s'est complètement érodé, a trouvé un mythe de substitution, un mythe national soviétique, autour duquel fédérer les peuples soviétiques. C'est à l'époque de Brejnev. Donc on a commencé à déifier la Grande Guerre patriotique, à en déifier les personnages, les grands chefs, à célébrer l'héroïsme de masse. C'est devenu une sorte de mythologie de substitution. En gros, c'était la chose dont les Soviétiques pouvaient être les plus fiers. Ils avaient abattu le monstre nazi. Ça, c'est dans la tête de tous les Soviétiques. Quand l'Union soviétique explose en 1991, ce mythe est récupéré seulement par les Russes. C'est-à-dire que les Russes se substituent, là, hop, hop, un petit tour de passe-passe, se substituent aux citoyens soviétiques pour devenir les dépositaires de Smith. Il se trouve que, dans la recherche de leur identité nationale, les Baltes et les Ukrainiens, eux, ne pouvaient pas s'identifier à ce combat. Donc, malheureusement, il faut le dire, certains d'entre eux, n'ayant pas d'image démocratique à laquelle se raccrocher, se sont accrochés aux éléments... les moins recommandables du nationalisme letton, estonien, lituanien et ukrainien, qui étaient les groupuscules fascistes, fascisants, pour certains carrément nazis. Et c'est ce qui... Mais encore une fois, c'est dans la reconstruction de leur identité que ces peuples ont rejeté l'idéologie soviétique et ont tenté de mettre en avant... Des éléments qui, nous, vu de Paris, nous paraissent contestables. C'est sûr qu'on ne peut pas aimer. C'était pas de Bandera dans le premier acte de gouvernement à Lviv. Enfin, c'est plutôt Chouchkevitch. C'est de provoquer un pogrom. Mais c'est facile pour nous. On n'a pas eu à supporter le régime soviétique, le régime stalinien, puis après le régime soviétique. On ne peut pas avoir la même vision de la Seconde Guerre mondiale que l'Ukraine ou les Pays-Baltes. On ne peut pas. Notre histoire est absolument différente. C'est la raison pour laquelle il faut se garder d'assimiler, comme le fait Poutine, ça c'est le piège, d'assimiler la résurgence nationale ukrainienne post-1991 à cette bouffée de nationalisme ukrainien pro-nazi qui a eu lieu entre 1941 et 44, et qui trouvera des échos jusqu'en 1955, à peu près. C'est, encore une fois, le piège que nous tend Poutine aujourd'hui, c'est de dire que les Ukrainiens sont des nazis, en reprenant, lui, cette idée que les Russes, eux, n'ont rien à voir avec le nazisme. Je vous rappelle quand même, il y a eu autant de collaborateurs du côté des Russes que du côté des Ukrainiens. Les Allemands ont trouvé partout des collaborateurs. Ça n'a pas manqué. Chez aucun des peuples, les seuls, je le dis pas parce que je suis sur Radio Shalom, mais c'était celle évidemment, si je ne pouvais pas collaborer avec les nazis,
et encore.
C'était,
Et encore la police juive dans les ghettos.
Oui, mais enfin.
C'est une question à part.
C'est une question à part.
À la fois victime. Ça mérite,
c'est un autre débat. Mais non, il n'y a pas de. Mais encore une fois, je dis, c'est cette impossibilité, cette difficulté que nous, Français, avons à comprendre ce que ça veut dire que d'être ukrainien entre 1939 et 1941, quand le NKVD s'abat et déporte des populations entières, extermine tout ce qui n'est pas dans l'idéologie stalinienne, et notamment les cadres, hein, ce qu'ils ont fait avec les 40 000 officiers polonais à Katyn, ben, ils l'ont fait avec les cadres de la nation lituanienne ou ukrainienne. Et c'est vrai qu'en 1941, notamment en Ukraine occidentale, on a accueilli les Allemands avec des arcs de triomphe, avec des fleurs, avec le pain, le sel, parce qu'on a cru venu le moment de la libération. Mais ça ne s'est pas passé du tout comme ça. C'est un monstre encore pire qui est arrivé. Mais néanmoins, les Ukrainiens ne peuvent plus partager la même mémoire de la Seconde Guerre mondiale que les Russes, puisque les Russes, eux, ont réalisé une sorte d'OPA sur l'ancienne mémoire soviétique de la Grande Guerre patriotique, en se posant aujourd'hui non seulement en parangon d'antifascisme, mais même en défenseur des Juifs, parce que c'est quand même un truc assez extraordinaire de voir qu'aujourd'hui, on met en avant, en Russie, la figure de ce lieutenant de l'armée rouge qui organise le soulèvement de Sobibor. Et malheureusement, son nom m'échappe, vos auditeurs de m'en excuser, mais ce personnage, qui est un personnage qui est longtemps resté dans l'ombre, a été mis en avant par la propagande poutinienne pour montrer que dès qu'il y avait un officier soviétique quelque part, les Juifs pouvaient échapper à leur terrible destin et mourir au moins les armes à la main. C'est l'histoire de ce lieutenant. Et de la même façon, en disant que c'est l'armée rouge qui a libéré les camps d'extermination. L'armée rouge a libéré deux camps, hein, Majdanek et Auschwitz, dans lesquels il y avait pratiquement plus de... Le drame avait été consommé. Donc, en revanche, Poutine oublie de dire que ça a été le silence total sur la Shoah dans l'Union soviétique, puisque jamais la spécificité du génocide des Juifs n'a été reconnue jusqu'en 1991. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très ambigu la façon dont c'est présenté, puisque les Juifs sont présentés comme des victimes parmi les autres de l'agression nazie, alors que nous savons que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé.
Bien sûr. Or, ça m'avait frappé, ceci dit, en allant à... Aujourd'hui, Saint-Pétersbourg, avant Leningrad, je raconte cette petite anecdote, je vais rendre visite à des amis et une fenêtre est cassée, recouverte de sparadrap. Alors je leur dis, la fenêtre s'est cassée, ils me font oui. Je fais, il y a eu une tempête, ils me font non, c'est un bombardement. Je fais, ah bon, quand ça, ils me font, ben, durant la Seconde Guerre mondiale. Alors je leur dis, vous n'avez pas réparé cette fenêtre? Ils me disent non, on le garde pour s'en souvenir.
Ah ben ça, ils sont dans une commémoration absolument permanente. C'est un matraquage dans une vision totalement manipulée. Il n'y a pas de discussion libre entre historiens en Russie aujourd'hui. Hein. C'est vraiment une vision de la guerre qui vient d'en haut, hein, qui est complètement contrôlée, dit-on, par Poutine lui-même, qui semble passionné par cette question. Mais regardez comment il remet en question même le pacte germano-soviétique, refusant de le condamner, comment... Il y a vraiment une réécriture, comme sous l'Union soviétique, hein, dans la Russie poutinienne aujourd'hui, il y a une réécriture de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à l'Est, donc de cette fameuse Grande Guerre patriotique, dont je répète qu'elle est, avant Poutine, comme après probablement, la chose dont les peuples soviétiques et aujourd'hui le peuple russe voudraient en tirer la plus grande fierté possible. C'est dire que nous avons été ceux qui ont détruit le nazisme. Tous les autres, hein, les Occidentaux notamment, ont été passifs, complices. C'est ça aussi la réécriture de l'histoire. Et c'est évidemment oublier l'épisode du pacte germano-soviétique, c'est-à-dire de cette quasi-co-belligérance entre Staline et Hitler, entre 1939 et en 1941. Staline envoie quand même un télégramme de félicitations à Hitler quand les troupes allemandes défilent sur les Champs-Élysées en juin 1940, ça les Français ne devraient pas l'oublier tout de même.
Ben, Monsieur Jean Lopez, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et je recommande chaudement votre ouvrage que vous avez écrit en collaboration avec la Chaude Kamezouri, Barbarossa, 1941, la guerre absolue, aux éditions Le Livre de Poche.